L'émission que vous allez entendre a été enregistrée il y a 3 semaines. Nous venons d'apprendre la terrible nouvelle de la disparition de Nino Vella, l'autre membre de Rookin. Nous présentons nos condoléances à tous ses proches et nous avons une pensée très émue pour Sébastien.
In 500 meters, go straight and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et bienvenue surtout dans cette programmation d'été. Toujours des livres au programme, bien sûr, mais pour cet été, j'avais envie de vous faire rencontrer des personnalités, ou pas, des femmes et des hommes qui, à tout le moins, comptent pour moi et qui ne le savent pas forcément. Attention, je ne vous propose pas une heure à écouter se dérouler la biographie de l'invité. Aussi intéressant soit-elle ou il, cet exercice est généralement bien peu passionnant parce qu'on l'a lu et entendu 100 fois. Non, j'ai fait le choix de vous les présenter par ce qui, je crois, est très personnel et très intime, leur bibliothèque. Alors aujourd'hui, j'ai encore pris plaisir à traverser la campagne de l'Anjou pour me rendre à Rabelais-sur-Layon. J'ai suivi les indications, j'ai monté la rue à droite après le pont, j'ai dépassé le panneau bleu jusqu'à trouver sur la droite un petit portail métallique installé entre une maison et une haie d'if. J'y suis allé pour rendre visite à Sébastien Rousselet. Rien que ça. Le Sébastien Rousselet du groupe Rookin. En fait, 50% du groupe Rookin. Parce qu'il est impensable de parler de Rookin sans parler de Nino Vella, le comparse Choletais, l'ami, l'alter ego de Sébastien. Mais aujourd'hui, ce ne sera que Sébastien Rousselet. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
Comment allez-vous dans cette période inimaginable ?
Moi ça va, parce que j'ai la chance d'être à l'abri, à la campagne, dans mon petit village et dans ma maison, qui est en travaux d'ailleurs,
oui.
Vu le bordel ambiant, enfin c'est encore plus le bordel que d'habitude. Donc moi ça va, et puis inimaginable, moi je crois pas, justement, ça faisait quelques temps que moi... Je m'attendais à ce que ce genre de situation arrive. En vrai, ça fait un peu 22 ans. Moi, je commence à être assez vieux déjà pour me souvenir de 2002. Et ça fait plusieurs fois qu'on nous fait le coup. Donc, moi, je le sentais monter depuis pas mal de temps. Donc, c'est malheureusement pas surprenant ce qui me concerne.
Pour vous présenter rapidement, vous êtes né en 1976. Vous avez donc 48 ans. Vous êtes né à Biernay-les-Villages, à 17 kilomètres de Château-Gontier. Avant de créer Babel, il y a eu, entre autres, sans doute, Backstage, quand vous aviez 15 ans.
Incroyable.
Un groupe qui a quand même fait 500 personnes à Quelen-Singo. Et après Babel, c'est Rookin, créé en 2020. Et puis, vous vous présentez aussi comme un sale gamin.
Ouais.
C'est bizarre, cette expression. C'est quoi, sale gamin? C'est quoi un sale gamin? Peut-être que dans l'époque d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être bienvenu, les sales gamins.
Ouais, un sale gamin, c'est il y a un côté qui connaît pas les règles ou qui fait semblant de pas les connaître, qui doit les apprendre, mais comme il les connaît pas, il les enfreint. Et je trouve ça toujours intéressant, les fauteurs de troubles, ceux qui viennent troubler l'ordre en place. Et les enfants, souvent, ont cette capacité à le faire en... entre guillemets, toute innocence. En tout cas, on leur passe certaines choses. Et sale, l'adjectif sale en rajoute un coup, puisque il y a le côté pas propre, il y a le côté vraiment mal élevé, quoi, pas dans les clous. Et ça me rend les sales gamins très sympathiques. Et moi, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé gratter, déranger, tordre un peu les, je peux dire les valeurs, ce serait prétentieux, mais en tout cas, les représentations qu'on se fait des choses telles qu'elles doivent être dans nos petits esprits policés. Moi, j'aime bien ça. Et je trouve que c'est un peu le rôle, en tout cas, moi, c'est le rôle que je me donne en tant qu'artiste, c'est de garder mon côté sale gamin.
À la manière de Zazie dans le métro, vous pouvez dire.
Alors ça, c'est un Queneau que j'ai pas lu. Moi, j'ai lu Le Chien d'en et que j'ai beaucoup aimé. Et évidemment, Exercice de style et Les Derniers Jours. Mais j'ai pas lu Zazie dans le métro, donc je peux pas vraiment te répondre.
C'est Zazie dans le métro ponctue régulièrement ses phrases par mon cul.
Ah oui.
Donc voilà.
On est dans le sujet.
Dans votre présentation, j'ai insisté sur la musique, mais il y a pas que ça. Il y a aussi plein de boulot, petit ou grand, pour manger, car comme vous le dites, faut se faire des taches de cambouis avant des taches d'encre. En fait, il faut vivre, quoi.
Ouais, moi ça m'a aidé, en tout cas ça a été mon parcours. Je sais pas si, quand je dis il faut, c'est il y a un côté un peu impératif là-dedans. En ce qui me concerne, ça a été ce qu'il fallait. En tout cas, c'était comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a aidé de me frotter un peu à la rugosité de la vie, que ça donne de la matière ensuite à écrire, d'avoir de la matière à vivre. Ça a été mon cas, puis j'avais comme modèle peut-être des gens comme Calafert, par exemple, ça a été son parcours, ou des gens comme Bukowski, ou beaucoup d'auteurs, à vrai dire, hein, et d'autrices, ouais, j'étais assez sensible à ça, aussi à une vie de bohème, des gens comme Kerouac et tout m'ont pas mal marqué. Évidemment, le Rimbaud par excellence, même si lui il s'est mis à travailler après, parce que lui c'est vraiment un personnage hors norme, passionnant. Mais il a quand même été sur les routes et rencontré par exemple la Commune de Paris à l'époque dans sa jeunesse, mais voilà, je crois que tout ça m'a marqué. Je me suis dit tiens, il faut peut-être que j'en passe par là avant de me sentir légitime à écrire.
Parce que vous écrivez déjà, mais on va y revenir à la fin de la conversation. Pour l'instant, moi je suis venu vous rendre visite parce que autour du thème de votre bibliothèque, et puis votre bibliothèque, ben, elle est à côté de nous, là, elle est là. En fait, c'est une vraie bibliothèque, parce que c'est une bibliothèque un peu bordélique.
Complètement.
Voilà.
Je me rends compte, c'est peut-être pire que d'habitude encore. Bon, non, je me donne une excuse là. Oui. Non, elle a toujours été comme ça.
Elle est comme ça.
Ouais, ouais.
Donc c'est une bibliothèque qui vit. Les bouquins arrivent, ils se posent, et puis ils sont bien là où ils se posent, en fait.
Ouais, finalement. Puis repartent, et puis des fois on les fout ailleurs, et puis des fois je les trouve plus, ça m'énerve, mais.
Oui. C'est.
Mais
voilà.
Oui.
Cette bibliothèque, d'abord une. C'est toujours important parce qu'on dit la bibliothèque, mais c'est la bibliothèque de qui celle-là ? C'est la bibliothèque de Sébastien Rousselet ?
Ouais, de moi et de Marie, ma conjointe. Ouais. On a nos bouquins, on a chacun un peu nos. D'ailleurs, je me rends compte, on a chacun nos casiers, nos étagères. Là, bon, les BD c'est plutôt moins, hein, j'avoue. Les enfants ont leur BD à l'étage, hein, leur manga d'ailleurs, parce qu'ils ont très peu de BD. Et là, j'ai une bonne partie là qui est plutôt à moi, même si là c'est partagé en haut. Mais ça, on pourra faire l'inventaire tout à l'heure.
On en fera un inventaire, mais on commence par une première question. Une bibliothèque, ça commence par un livre, ça commence par un premier livre. Et ce premier livre, il est dans cette bibliothèque ?
Eh non, il y est pas. Il y est pas parce que il fait partie de ces bouquins que j'ai. J'ai dû filer à mes neveux ou à je ne sais qui. Ce premier bouquin dont je me souviens, ce serait un Jules Verne, c'est 5 semaines en ballon. Alors, il a une histoire drôle ce bouquin, parce qu'en fait, j'ai fait ma communion solennelle, comme on disait, ma profession de foi, ayant été élevé dans une famille catholique. Et il y a quelqu'un de ma famille qui m'avait filé des bouquins de Malraux, de Victor Hugo, des trucs, j'avais 11 ans, je comprenais rien du tout. On m'avait offert La Condition humaine et L'Espoir de Malraux, truc, l'enfer. J'ai vu ça, j'étais très étonné. Et en fait, on a réussi à échanger les bouquins contre des Jules Verne. Et le premier Jules Verne que j'avais lu, qui faisait partie de cette liste-là, c'était 5 semaines en ballon, qui est un livre, c'est un de ceux dont je me souviens le mieux, alors c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai lu, mais c'est un de ceux dont je me souviens le mieux parmi les Jules Verne, le plus précisément celui que j'ai trouvé le moins fastidieux à lire. Il y a un côté un peu pénible à lire Jules Verne, parce que il y a une espèce de d'ergotage pseudo-scientifique en permanence. Bon, c'est un peu un des ancêtres de la SF, donc il se doit de mettre de la science un peu partout, mais Voyage au centre de la Terre, c'est pénible, il est obligé de faire faire de la géologie, de la pseudo-physique, un peu à deux balles pour l'époque. Bon, c'est rigolo, mais alors que 5 semaines en ballon, bon, on était sur une étude de la géographie, mais c'est beaucoup plus concret et on sentait vraiment ce qui leur arrivait à ces personnages quand ils avaient quand le réostat ne fonctionnait plus et que le ballon tombait dangereusement vers la terre et qu'ils étaient assoiffés, ils survolaient l'Afrique et qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. On y était vraiment avec eux. C'était beaucoup plus concret, beaucoup plus proche de ces personnages, je trouve.
On est dans le roman, plus dans le roman d'aventure avec 5 semaines en ballon.
Complètement. Effectivement. Ouais.
Donc ça, c'est le premier livre. Alors ça répond. On abordera cette question sur la circulation des livres. Comment un livre il circule, comment il entre et comment il sort d'une bibliothèque. Mais dans cette bibliothèque, donc est-ce qu'on trouve, alors vous en avez parlé, il y a de la BD.
Beaucoup de BD, ouais.
Ouais, beaucoup de BD. Ouais. Alors j'aperçois l'incontournable Maus.
Ah oui. Ça c'est tu viens de dire, hein, c'est incontournable. Ouais, ça fait partie des bouquins que j'ai depuis longtemps d'ailleurs. Je sais plus de quand ça date. Je crois que c'est une BD qui est sortie dans les années 90 si je me trompe pas, j'ai dû l'acheter 99 à Rennes, je crois. Et c'est vraiment comment dire. Je crois que quelqu'un qu'on a vachement bien parlé, c'est Étienne Davodeau, où il dit quand on lit Maus, on se dit qu'en fait la BD est capable de grandes choses. Il dit un truc comme ça, je crois. Je crois d'ailleurs qu'il dit ça dans Les Ignorants, une autre BD, tiens, qui est là. Et c'est vrai que aujourd'hui, le récit BD, comment on dit ça? Il y a une espèce de terme qui est né il y a 7-8 ans. Mmh. Un roman BD ou je sais plus. Enfin bref, mmh. Il fait partie de ces bouquins roman qui sont graphique. Des œuvres vraiment à part entière. Une espèce de presque d'une grande densité, un peu comme un roman en fait.
Oui, roman graphique.
Roman graphique, merci beaucoup. Ouais. Je cherchais l'expression. Mmh. Ça, c'est une expression que fait Florest là, depuis 7-8 ans. Mmh. Bon, moi j'appelle ça tout ça des BD. Mais c'est vrai que là, il y a une telle puissance et un tel rapport à l'histoire de ce personnage, à l'histoire de la Shoah et ce côté hyper minimaliste avec un peu un pied de nez à Mickey de mettre les juifs en souris et les ogres nazis en chat, ça parle de la BD, ça parle de l'histoire, ça parle de tout ça en même temps, c'est très très fort et tous mes enfants l'ont lu et c'est une BD importante.
Et puis si on va légèrement à gauche, on tombe sur Astérix.
Ouais, ça, j'aurais pu dire que c'est ça mon premier bouquin, en fait. Parce que moi, j'ai pas du tout appris à lire à l'école. J'avais la chance d'avoir des frangins et frangines qui avaient 15 ans de plus que moi en moyenne, donc j'ai bénéficié de leur capital culturel. Et ils avaient des Tintins, qui sont là. Oui. Et alors, je les ai rachetés la plupart, mais certains Astérix, à mon avis, font partie de la bibliothèque familiale. Et Astérix, moi, ça m'a complètement marqué. J'ai vraiment appris à lire avec ça. Je trouvais ça dans la bibliothèque de mes parents ou de mon frangin, enfin peu importe, et j'étais tellement motivé à lire que ça a accompagné mon apprentissage de la lecture, vraiment.
Donc on vient de voir hein, le roman graphique Maus, on parle d'Astérix, et puis je ne pense pas m'être trompé, il y a Akira, j'ai vu Akira aussi.
Oui, alors Akira. Non,
on passe des années 60 aux années 2000.
Ouais, c'est plus vieux que ça, Akira. Hein. Oui. Je crois que les premiers datent des années 80. Hein. Mm-hmm. C'est un peu je me rappelle plus comment s'appelle l'auteur, mais on va regarder ça.
Oui, c'est puis voilà.
C'est Katsuhiro Otomo, qui est vraiment un peu l'un des papes. C'est peut-être pas le tout premier, mais c'est le premier qui a vraiment popularisé le genre, et en tout cas au niveau mondial. Et moi, je trouve que ça a très très bien vieilli. Alors évidemment, quand on compare avec les mangas qui se font aujourd'hui, c'est plus vraiment pareil, mais il y a un souci du détail dans le dessin et un scénario vraiment très élaboré, et même sans se prendre la tête sur le scénario, rien qu'en regardant les dessins et le monde qu'il invente, moi je trouve ça très très fort. Donc oui, Akira, que j'avais découvert en couleur d'ailleurs, et en format BD, c'est-à-dire qu'il se lisait de
à l'européenne,
de gauche à droite à l'européenne. Et là, je tenais à me l'acheter, donc je l'ai trouvé chez cette formidable librairie qui est Repère des héros à Angers. Je les ai trouvés là-bas en format manga, donc de droite à gauche et en noir et blanc.
Vous avez cité donc des poètes, hein, Bukowski, Cadafert. Il y a d'autres poètes dans cette bibliothèque?
Oui, alors pour moi, Pierre Michon, qu'on étiquette comme un romancier, bon, pour moi, c'est plus un poète qu'un romancier, en fait. Enfin, je trouve qu'il raconte une vague trame scénaristique, si on veut, mais vraiment ses prétextes à dépeindre des états intérieurs et à dépeindre la nature aussi. Il parle beaucoup, beaucoup du vivant. Et de façon, je crois, avec une langue incroyable. Là, je suis dans Vie minuscule. J'avais lu La Grande Beune avant. Et c'est pareil, Vie minuscule, c'est une espèce d'arbre généalogique où il raconte la vie des gens, mais comme son titre l'indique, des vies minuscules où il se passe rien. Et en fait, ça suffit à faire un bouquin. C'est vraiment moi, je suis assez captivé par ça. Mais tout tient dans la plume. Donc pour moi, c'est vraiment de la poésie. Sinon, les poètes, ils sont plutôt là-haut.
En haut à gauche.
Tu vois, il y a Prévert. Hein, j'en ai quelques-uns. D'autres qui devaient être dans la chambre de ma fille. Bon, moi, je suis assez classique en poésie. Hein. Je dois dire que je suis un peu poussiéreux. Tu vois, moi, c'est Rimbaud, Baudelaire. Je dois avoir un Verlaine qui traînait quelque part. Je suis resté un peu 19e. Alors, j'avais un Michaud avant, mais c'est pareil, je l'ai paumé. Ça fait partie des bouquins que j'ai prêtés. Michaud, j'aime beaucoup aussi. Mm-hmm. Un peu plus contemporain. Mm-hmm. Et puis sinon... j'ai un Lautréamont aussi, qui doit être par là, qui doit être un peu largué par ici. Lautréamont que j'avais découvert au lycée, je crois, en seconde. Et voilà, j'ai du Vian aussi. Vian, c'est aussi de la poésie, c'est des textes de chansons, c'est poétique. Tiens, un Aragon, le roman inachevé.
Ah, important le roman inachevé.
Très très beau.
Oui. Donc ça, c'est pour la poésie. J'ai dû voir des tranches de romans de SF.
Ah oui, ils sont tous là, les SF, c'est là-haut.
SF, ouais.
Ouais, ça c'est moi aussi, hein. C'est pas du tout, c'est à moi.
L'auteur le plus important de SF, pour vous.
Le plus important de SF. Alors, tu sais quoi, moi, j'en lis plus de SF maintenant. C'est marrant. C'était une période de ma vie, j'en lisais beaucoup.
Mais les livres, ils sont restés là.
Mais ouais, parce que ils ont été importants pour moi quand même. Bah, tu vois, il y a tous les Dunes qui sont là.
Oui.
Qui sont à la mode aujourd'hui, puisque le film est remis au goût du jour. Je sais pas si les gens le lisent plus. Sans doute, ça doit aider, mais Dune, j'ai lu ça mon année de terminale. C'est l'année où je me suis remis à lire. Parce que j'ai arrêté de lire pendant une bonne partie de ma scolarité, ayant été, je dois le dire, dégoûté de la lecture.
Ouais, pourquoi?
Je crois que c'est vraiment par la pédagogie scolaire. C'est pas de la faute des profs, hein. C'est que, en fait, c'est comme si je trouve qu'on enseignait une langue morte, un peu. Voilà, c'est mon point de vue. Mmh. Moi qui étais quand même gros lecteur quand j'étais enfant, tu vois, je lisais les bouquins des bibliothèques roses, par exemple, aussi, quand j'étais petit, tous les Comtesses de Ségur, etc. Puis les Jules Verne, quand même des bouquins assez denses quand on a 10 ans. J'ai très vite arrêté de lire parce que j'étais dégoûté de la lecture. Je ne trouvais pas qu'on donnait le goût de la lecture. Moi, quand j'étais au collège et que je devais lire du Balzac ou à peine plus tard du Flaubert, j'étais pas prêt pour ça. Quand j'avais 14 ans, 15 ans, je m'en foutais de la vie d'une bourgeoise normande qui s'emmerde le 19e siècle et qui se perd dans des romans à l'eau de rose. Ça m'intéressait pas. Ça me parlait pas. Alors, on peut se dire, bah oui, mais les jeunes, faut quand même les intéresser à autre chose. Ben, je crois pas. Je crois que, en tout cas, on risque bien plutôt de faire l'effet inverse, de les désintéresser, voire de les dégoûter de ces choses-là. Donc, et maintenant que je suis un grand garçon, je redécouvre Flaubert et je dois dire qu'Un cœur simple ou Madame Bovary, ça fait partie des plus grands romans que j'ai lus. Mais à l'époque, j'étais pas prêt à ça.
Mais comme vous dites, il y a eu un creux. Et puis la terminale.
Et la terminale, je sais pas pourquoi. J'avais vraiment que ça à foutre, hein. J'ai lu tout d'une, ça fait 3500 pages quand même. Et j'ai eu mon bac quand même, je sais pas comment. Et j'ai lu, d'une, je me suis remis à, par la SF. Et je crois que c'est par d'une. Il y avait peut-être un Philippe Farmer, qui était Le Monde du Fleuve. Génial. Super bouquin. Alors ça se lit tout seul. C'est une histoire complètement abracadabrante où des gens se retrouvent au bord d'un fleuve comme ça. Et toute l'humanité qui est morte, tout le monde ressuscite, donc des milliards et des milliards de personnes se ressuscitent tous nus au bord d'un fleuve sans fin, qui s'appelle le fleuve de l'éternité. Et donc, Ulysse va rencontrer Göring, et du coup, ils vont devenir ennemis jurés, va rencontrer Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, et va rencontrer je ne sais qui. Et il y a un personnage qui va essayer de comprendre ce qu'ils foutent là, et essayer de remonter à la source de ce fleuve mystérieux. C'est vraiment bien. Et après, dans la foulée, je me suis mis à Dune, qui me semblait, qui était a priori important avec les quelques infos que j'avais.
Philippe José Farmer, donc, qui est ça fait partie de cette grande école de la science-fiction américaine des années 50, 60, enfin, où il y a eu des gigantesques auteurs, enfin, c'est, voilà, les Asimov, enfin, il y a toute cette série-là. Effectivement.
Comme Frank Herbert, d'ailleurs.
Comme Frank Herbert, bien sûr, Frank Herbert, incontournable. Donc, donc on vient d'aller en science-fiction. On va faire une pause musicale. Si je vous demande un titre, ce serait quoi?
Bah tiens, j'ai vu mon vinyle de Leonard Cohen. Alors, je regarde quel titre on pourrait mettre, parce que ça, c'est ça m'accompagne encore très régulièrement, Leonard Cohen, sur le premier album, évidemment. Et je dirais The Stranger Song, parce qu'en plus, j'ai découvert dans un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, un vieux film de 70 qui s'appelle John McCabe, qui est un vieux film de Robert Altman, une espèce d'anti-western, que Cohen avait fait la musique de ce film, qui se marie superbement avec les images, et notamment cette chanson.
Eh ben, on va écouter The Stranger Song.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
Vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou sur Radio G, fréquence 101.5, et je vous invite à me rejoindre à nouveau dans la bibliothèque de Sébastien Rousselet. Voilà, ben c'était... on est à Rabelais-sur-Layon, on est à côté de la bibliothèque de Sébastien Rousselet. On vient d'écouter la voix toujours, en tout cas à mes yeux, toujours bouleversante de Leonard Cohen. Et on reprend la conversation autour de cette bibliothèque. On a parcouru quelques rayonnages. Une bibliothèque, ça regroupe, en tout cas je suppose, des livres qui comptent. Pour une raison ou pour une autre, ils sont là, on a décidé de les garder. Parce que, entre autres, ils nous fabriquent, ils nous ont fabriqués. Les auteurs qui vous ont fabriqué, vous, Sébastien Rousselet, c'est qui?
Oh là, pas évident à dire.
Ou qui vous fabrique d'ailleurs, c'est pas ouais. Au passé.
Oui, oui.
Là, tout à l'heure, vous avez parlé de Pierre Michon, par ouais. exemple. On peut imaginer que la lecture de Pierre Michon, tout d'un coup, elle devient presque indispensable parce qu'on se rend compte que la littérature, elle tient un peu de choses.
Mm.
Par exemple.
Oh là là, c'est vachement difficile de répondre à la question de qu'est-ce qui t'a vraiment influencé, parce que moi il y a des auteurs que j'ai adorés, que j'ai lus vraiment passionnément, mais je sais pas du tout s'il y a deux dans mon écriture ou mm-hmm. dans mes écritures de chansons ou même dans ma, je sais pas, de façon un peu pompeuse en plus, dans ma construction d'homme.
Mm-hmm. Ouais.
Je suis pas du tout sûr. Tu vois, quelqu'un comme James Ellroy, que j'ai lu et relu et relu, vraiment, que je trouve que c'est un auteur puissant, pourtant très discutable politiquement, voire très à droite, avec un goût pour le glauque et le sordide et la violence. Mais par contre, une grande plume, une science du récit, vraiment, c'est de l'orfèvrerie, c'est assez incroyable, c'est très précis, et en même temps très écrit, en même temps c'est un historien, enfin il y a tout ce que j'aime. Pour autant, je suis pas sûr que en moi, dans ma construction, dans ma façon d'écrire, je m'y retrouve beaucoup. C'est délicat. Alors je dirais qu'il y a quelqu'un qui doit être présent, parce qu'il y a au moins un de ses bouquins, mais je sais plus où il est. C'est trop le bordel. C'est Desproges. Alors Desproges, qui est pas strictement parlé un écrivain, mais il a dans sa plume très facétieuse et aussi sale gamin.
C'est un sale gamin. Oui.
Quelque chose qui moi m'accompagne, une façon de se marrer de tout, comme il le disait lui-même, et de parler de sujets un peu qui grattent aussi, notamment évidemment la mort. Moi, je crois que la chanson mortelle, qui celle de notre fer de lance, notre étendard avec Rouquine, vient directement de Desproges. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Disons que ça correspondait avec mon tempérament et avec ma façon de voir les choses, le fait de, comme ça, de raconter la vie d'un mec qui a le cancer et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait la fête et puis on fait la fête avec les gens qu'on aime et puis on parle du crabe et on en rigole et on en pleure aussi sur une musique guirette où tout le monde danse. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient en droite ligne de ça, qui m'a marqué, mais qui vient aussi de Brassens. Brassens, il y a un bouquin aussi, un recueil de poèmes ici, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, que j'écoute plus maintenant, mais qui, alors, là, je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un dont sa façon d'écrire, plus que sa façon de chanter, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Dans cette espèce d'hyper-exigence sur le verbe, sur comment on tourne les mots, et que tel vers doit tomber sur telle rime, comment dire. Vraiment le sens du détail. Je suis assez pointilleux, moi, là-dessus. Et puis, sur un regard très humain, c'est un moraliste au sens du 17e, Brassens, quoi. Mmh. C'est-à-dire que les gens parfaits, ça n'existe pas. Arrêtez de vous la raconter avec vos grandes valeurs et votre moraline. Personne ne vaut mieux qu'un autre. Donc, il y a un côté très rafraîchissant dans cet anarchisme-là de Brassens qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup accompagné.
On pourrait se dire que une ou deux chansons de Brassens aujourd'hui nous ferait un peu de bien, de, parce que je pense qu'il aurait matière.
Un ou deux albums même, je pense.
il aurait de quoi dire. Ça veut dire que vous dites, voilà, ces livres, je sais pas si s'ils participent de ma construction, mais pourtant ces livres ils sont là. Alors pourquoi ils sont là?
Ou alors ça veut dire que tous les bouquins participent de ma construction et certains, je vois pas où ça me construit, mais évidemment que ça me construit. Si on veut revenir à Elroy, je trouve que c'est un des grands romanciers, un des grands auteurs du roman noir américain. Et dont j'aimerais que mes proches le lisent. Parce que quand on lit ça, pour tous les adeptes de la série télé, où il y a une espèce de frénésie du twist final et du scénario, on a besoin toujours que ça avance, quitte à ce que ça devienne complètement absurde et débile et que ça n'ait plus aucun sens à la fin, quitte à faire revivre des personnages, on est trucs abracadabrons auxquels on ne croit pas, mais voilà une espèce de, comme si on avait besoin de montagnes russes scénaristiques pour tenir. Ben, j'invite tout le monde à lire James Ellroy, notamment la grande suite de Los Angeles, la quadrilogie qui commence avec le Dahlia Noir. Vraiment, c'est extraordinaire parce que là, on a à la fois une écriture ciselée et en même temps assez accessible, une orfèvrerie du scénario que moi j'ai rarement vu, mais une vraie plume. Ce mec a une plume, il est capable, en quelques lignes très resserrées, de dépeindre l'intériorité d'un personnage. Moi, j'ai rarement vu ça, en fait. Et puis, en plus, quand on aime l'histoire, ce qui est mon cas, on est vraiment plongé dans le Los Angeles des années 50 avec une précision. On voit les bagnoles, on voit les fringues des gens, on voit ce qui passe à la radio, à la télé, la propagande de l'époque. C'est extraordinaire, vraiment. Après, moi, ce que j'aime chez James Ellroy aussi, c'est de me rendre compte que c'est un type très antipathique. En tout cas, moi, j'ai rien de commun avec lui, je pense. C'est un droitard qui a appelé à voter Bush, George Bush, à l'époque de la guerre en Irak, je crois. Enfin, bref. Pour autant, ce que je trouve génial, c'est que j'ai pas besoin d'être d'accord politiquement avec quelqu'un pour l'apprécier d'un point de vue littéraire. Et ça, c'est une grande leçon. Je me fous complètement de savoir qui fait quoi. Moi, ce que je veux, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut être dérangeant. Mais moi, je demande pas mieux que d'être dérangé, justement. Ça veut dire qu'avant j'étais rangé. Et quand on est rangé, on bouge plus. Donc d'être dérangé, moi au moins, ça m'oblige à me reconfigurer après et à repenser les choses, quoi. Donc de savoir que ce type-là, au départ, j'étais très surpris. Je me suis dit, oh là là, quand même. Ah ouais, le gars, il dit ça, il pense ça. Sauf que je me suis rendu compte que ces romans, je les trouvais extraordinaires. Donc voilà, ça c'est une grande leçon de la littérature et peut-être de l'art en général.
Alors peut-être que si les livres qu'on a dans une bibliothèque, ils ne nous construisent pas forcément. Peut-être qu'ils sont autre chose. Peut-être qu'ils sont des morceaux de nous, des bouts de nous. Quand vous parlez de James Ellroy, on vous entend en parler avec une énergie, un enthousiasme, on va dire. Tout comme quand vous avez parlé de Pierre Michon, ce qui est extraordinaire dans une conversation sur la littérature, rabouter Pierre Michon à James Ellroy, c'est quand même assez un raccourci assez assez passionnant. Si on y met Astérix au bout, alors là on a fait une boucle extraordinaire, on a fait un 360 degrés tranquillement. Mais peut-être que c'est ça là, une bibliothèque, peut-être que c'est des souvenirs, des bouts de nous, en fait, des bouts de notre mémoire, et que ne pas les avoir là, ben c'est peut-être des morceaux qui manqueraient de nous.
Ouais, parce que probablement que peut-être que c'est un attachement. C'est marrant parce que moi je m'attache pas du tout aux choses, mais pas du tout du tout. Je suis pas matérialiste du tout, pas assez d'ailleurs paraît-il, mais il y a que les bouquins que je garde. Et peut-être parce que on a des souvenirs assez forts quand on est vraiment lecteur, qu'on aime ça. Moi, je dois dire que quand je me replonge dans un Ellroy, par exemple, immédiatement, ça me rappelle ma vie d'étudiant à Rennes, par exemple. C'est tout ça aussi, les bouquins. C'est pas seulement le livre en lui-même.
Non, c'est des bouts de vie.
C'est très impur. Ouais. C'est le bout de vie. C'est tout ce qu'il y a autour. Parce que un bouquin, quand même, ça nous accompagne longtemps. On passe, allez, au moins une semaine peut-être dessus. Après, ça dépend. Je veux dire que le Dahlia Noir, j'ai dû mettre 3 jours à le lire tellement j'avais que ça à faire et j'étais tellement captivé que j'étais à fond dedans. Mais c'est vrai qu'en général, ça peut prendre un peu de temps. Donc, on vit avec quand même plusieurs jours et immédiatement, ça s'inscrit dans notre cerveau comme vraiment un pan de notre histoire, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai peut-être un peu plus de mal à m'en détacher.
C'est ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que c'est des souvenirs, et si on s'en départit, si on les éloigne de nous, en fait, les souvenirs disparaissent, ça deviendrait terrible finalement.
Mmh. Hein? Ouais.
Il y a des livres dans cette bibliothèque, hein, mais le livre d'aujourd'hui, celui qui est en train d'être lu, c'est lequel ?
Alors j'en ai plusieurs. J'en ai souvent sur, plusieurs sur le feu, mais là il y en a un qui est vraiment, c'est Pierre Michon, La Vie Minuscule dont je parlais tout à l'heure, qui est cette espèce de poète rural. Je sais plus où il vit, dans la Creuse, je crois. Et c'est un monsieur qui doit pas avoir loin de 80 ans maintenant. Et ce bouquin date des années 80. Et je crois que c'est avec ça qu'il est vraiment advenu sur la scène littéraire française. Et vraiment, on est à la fois dans une langue très écrite, un peu ancienne, il y a aussi un peu d'archaïsme dedans, mais ce qui lui donne, je trouve, beaucoup de charme, mais surtout avec une capacité à dépeindre des sensations, des odeurs, des bruits, des je sais pas, et puis l'intériorité des gens avec des grandes phrases. Faudrait le citer en fait, parce que c'est toujours délicat de parler quelqu'un comme Michon avec des mots de tous les jours, parce que c'est tellement une langue de dingue que j'ai l'impression de la piétiner un peu.
Est-ce que vous voulez en lire un bout?
Pourquoi pas, j'aurais dû noter parce que...
C'est pas grave.
J'aurais dû... J'espère que le passage va être bien, en général. Ma mère, un jour d'octobre, me conduisit dans cette maison magique d'où je pensais sortir papillon. La butte que couronne le lycée porte des marronniers qui se défeuillaient. Le haut bâtiment où des briques éteintes alternent avec des granites perdait superbement le noir de ses ardoises dans le ciel noir. Il me parut multiple, orthogone et fatal, caverneux comme un temple, une caserne de lanciers ou de centaures. Voilà.
Tout est dit. En fait, tout est dit là dans ce bref extrait. On a toute la force de l'écriture, hein, de Pierre Michon. Ce ciel noir, ces ardoises qui se confondent avec le ciel. Les images surgissent. En fait, il fait surgir les images immédiatement. Ça, c'est le livre en cours. Comment vous choisissez vos livres? Ça se passe comment?
Ah, c'est une bonne question, ça. Soit quelqu'un m'a conseillé un truc à lire, alors je vais le mettre sur le haut de la liste. Soit ça fait part. Il y a un bouquin, je me dis bon, ça, il faut que je m'y attelle parce que ça fait partie des classiques. Par exemple, À rebours de Huysmans. Ça faisait longtemps que je voulais lire cette personne parce que ça faisait un peu partie, comment dire, de quand on veut avoir à la fois une culture, c'est même pas ça. Quand on a le goût de lire, on se dit, il paraît que c'est important. Bon, bah, je vais essayer de le lire. Voilà. Un peu comme on retourne à l'école. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Ou comme j'ai lu Proust, par exemple, récemment. Parce que, voilà, c'est important, il faut le lire. Je peux pas, en tant que personne qui se pique d'être lectrice, de pas lire Proust. De pas avoir au moins essayé, quoi. Bon, bah, c'est un peu comme ça. Donc, Huysmans, j'avoue, ça n'a pas été une mince affaire, À rebours, parce que, alors là, on est vraiment dans la pulvérisation totale du récit, on est dans une description, un inventaire de sa bibliothèque, des tableaux qu'il y a chez lui, de la couleur du papier peint, et tout est magnifiquement écrit, mais dans les moindres détails, c'est pas facile, et puis il y a quelques trouées de récit, notamment quand il a une rage dedans. Une scène apocalyptique où il va chez une espèce de dentiste qui ressemble à un boucher, qui a une espèce de tablier, des pommes, une scène d'horreur. Ça dure 3 pages. C'est complètement fou. C'est vraiment extraordinaire de la description, la cruauté, l'humour féroce. Et c'est assez fou. Mais il n'y a pas beaucoup de pages comme ça. Donc je dois dire que je l'ai lu. Ok, je suis content, mais c'était pas forcément un grand plaisir de lecteur. Ça a été un peu fastidieux, mais du coup, au bout d'un moment, je regardais les choses non plus avec le plaisir du lecteur, mais avec ok, en quoi c'est grand, qu'est-ce qu'il y a de fort chez lui, à quel niveau je peux comprendre presque techniquement ce qui se joue. Donc j'étais vraiment sur un autre régime de lecture. Mm-hmm. Ce que j'ai un peu fait au départ avec Proust, mais Proust, ça m'a beaucoup plus embarqué quand même.
Oui. Donc ça, c'est la manière dont vous choisissez les livres. Vous achetez les livres ou vous les empruntez en bibliothèque?
Je vais très peu à la bibliothèque pour les livres, pour les BD, oui. Non, les romans. Moi, j'adore aller. Alors, je vais beaucoup chez les bouquinistes. J'aime bien trouver des vieux bouquins. J'aime bien le livre d'occasion. J'aime bien l'odeur du bouquin d'occasion. J'ai un peu des petits plaisirs comme ça. Tiens, lui là. Là, c'est l'insurgé de Vallès.
Ah, mais c'est... Ah, là, là, c'est... Ça fait plaisir d'entendre...
Ça, ça, ça sent bon, quoi. J'aime bien les livres qui sentent comme ça. Je sens qu'il y a, il y a du vécu, là.
Oui, il y a... la tranche est jaunie complètement.
Ah, complètement. C'est... Il y a des cornes dans tous les sens sur les pages. On sent qu'il y a, il est passé dans plein de poches et dans plein de mains, ce bouquin. Mmh. Ouais, ça, ça, j'aime bien. Mais j'achète aussi... bon, là, il y a, tu vois, il y a des, les éditions La Fabrique qui viennent de perdre Éric Cazan, qui est mort il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Grand éditeur et qui a fondé donc La Fabrique, une édition on va dire très à gauche, en tout cas avec on va dire la pensée radicale et la pensée critique de la gauche, où je commande en ligne sur leur site. Donc il y a ça, il y a quelques bouquins aussi, les bouquins, j'aime bien les essais historiques, les bouquins d'histoire, comme donc j'ai acheté un bouquin à la NRF il y a pas longtemps, bouquin de Johan Chapoutot, un historien extraordinaire, que j'invite tout le monde à lire, vraiment, ou à écouter en podcast. Un historien du nazisme qui a écrit un essai passionnant qui s'appelle Libre d'obéir. C'est extraordinaire et ça fait, c'est extraordinaire parce que il y a vraiment, on apprend plein de choses sur le nazisme en lui-même, mais ça fait extrêmement écho à notre époque, sans parler de ce qui se passe aujourd'hui avec l'extrême droite, mais sur même sur nos structures institutionnelles en cours aujourd'hui, sans aller jusqu'au fascisme, il y a déjà quelque chose qui s'est infusé depuis le nazisme jusqu'à notre société. C'est extrêmement intéressant. Sinon, il y a un bouquin de Noiriel, qui est un autre historien que j'adore, qui s'appelle Une histoire populaire de la France. Ça, c'est pareil, je l'ai acheté, neuf. Ça c'est super parce que ça peut se lire aux toilettes par exemple. C'est des petits chapitres très courts. Et je dis pas ça de façon péjorative. Hein, c'est un grand livre, mais en fait c'est des petits chapitres très courts.
Gérard Noël, c'est un historien passionnant, enfin important
à fond,
en plus.
Complètement. Oh, oui. Ah oui. Mais il y en a plein des historiens passionnants. Hein. Donc je parlais de Chapoutot, il y a Noiriel, il y a Ludivine Bantigny qui est là, qui est où? Elle est où elle? Elle est là. Elle a fait un bouquin sur la commune au présent, qui est une espèce d'échange de lettres comme ça qu'écrivent les communards. C'est passionnant aussi. Enfin, il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. On va pas faire l'inventaire, mais voilà, j'aime beaucoup ça. Donc ça fait partie des bouquins que j'achète neufs.
Quand on aime les livres, il y a une question qui est cruciale. Est-ce que vous prêtez vos livres?
Ah oui. Alors maintenant, j'ai grandi. Je fais une liste des gens à qui j'ai prêté les bouquins pour ne pas les perdre. Parce que sinon j'en ai prêté plein, je sais plus à qui, et après je sais plus où ils sont. Donc je les rachète, puis après on me les rend, puis en fait je les ai en double, donc j'en donne un. Enfin c'est.
Et là il y a la question réciproque. Est-ce qu'on vous prête des livres et est-ce que dans cette bibliothèque,
est-ce qu'il y a des livres qu'on m'a prêté?
Il y a un livre qu'on vous a prêté que vous avez jamais rendu.
Ah il y en a sûrement. Si il y en a sûrement. Alors je les ai pas en tête. C'est tellement longtemps que je les ai. Il m'arrivait de croire qu'ils étaient à moi alors qu'en fait ils n'étaient pas à moi. Tiens, le Desproges dont on parlait tout à l'heure, mais celui-là il est à moi. Là j'avoue, alors c'est pas de la mauvaise foi. Hein. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre.
C'est une bonne réponse. Ils ont donc raison de ne pas avoir été rendus.
Voilà.
Puisqu'ils ont été oubliés.
C'est ça.
Je vous propose de faire une deuxième pause musicale et cette fois-ci on irait chez qui? On irait écouter qui?
On irait vers du rock. On irait vers un groupe que j'aime beaucoup en ce moment. Alors là, grand écart après Leonard Cohen. Est-ce qu'on choisirait un titre vraiment, vraiment rock? En tout cas, c'est un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Alt-J. Mais ce sera Left Hand Free de Alt-J.
Eh bien, allons-y.
Ain't shady baby, I'm hot like the prodigal son. Battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. I'm I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one.
Vous êtes toujours sur Radio G et je rencontre aujourd'hui Sébastien Rousselet, le chanteur du groupe Rouquine, dans sa bibliothèque. Avant de passer au dernier volet de cette rencontre, est-ce que dans cette bibliothèque, il manque un livre dont vous vous dites régulièrement « mais si, il le faut et je ne l'ai pas » et puis ben, ça ne se passe jamais, ça ne se fait jamais et...
Oh, il y en a tellement. Il y en a plein qui manquent un. Ben, je dois dire que à la fois il y en a plein, en même temps j'en ai tellement déjà à lire dans ces bibliothèques qui ne sont pas lues que j'ai de la marge encore avant qu'il en manque vraiment un.
Ça veut dire que vous faites l'acquisition de livres comme ça parce que ils sont là quand vous êtes soit en librairie, soit chez le bouquiniste, mais ça veut pas dire qu'il y a d'urgence à le lire. Il peut très bien attendre un moment, mûrir, et puis arriver au moment où il faut qu'il arrive, c'est tout.
Moi, je pense ça. Ça rejoint un peu une question que tu m'avais posée tout à l'heure sur le temps et le moment où on lit le bouquin. Ben, moi, il y a des bouquins que j'achète en librairie ou chez un bouquiniste parce que je tombe dessus, je dis « Ah tiens, cet auteur, je l'ai jamais lu, mais je sais que je vais pas le lire tout de suite ». Peut-être que je vais le lire tout de suite parce que je me sens prêt, mais généralement ça va attendre un peu. Il va attendre sur la table de chevet ou il va attendre dans la bibliothèque. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vraiment un rapport au livre, mais je crois qu'ont beaucoup de lecteurs en fait, où il y a le plaisir d'avoir l'objet, le livre, et puis de savoir qu'il attend d'être lu. Et ça, c'est vraiment un plaisir que je trouve nulle part ailleurs en fait, mais parce que le livre c'est quand même un objet particulier. À une époque, peut-être qu'on pouvait faire vaguement la comparaison avec un DVD, mais les DVD ont duré, allez, combien de temps? Ça a duré 5 ans, oui. Puis c'est terminé. Ou les cassettes vidéo qui ont duré un peu plus longtemps. Il y a peut-être ce rapport-là, éventuellement. Mais le livre, je crois que c'est vraiment ce truc. Là, j'ai des bouquins. J'ai vraiment mis du temps avant de les lire. Il y en a certains même, ça fait plusieurs années que je les ai. Je sais que, par exemple, La solitude du coureur de fond, ça fait partie des bouquins que je lirai un jour. Mais toujours pas. J'ai toujours un autre truc à lire en avant, mais je sais qu'il est là, il m'attend. Ça viendra. Ton tour viendra.
Dit-il en interpellant La solitude du coureur de fond.
Et oui. Et c'est un titre magnifique déjà.
Oui. Mais je peux que vous recommander. Enfin, okay. Il y a urgence. Il y a urgence, voilà.
Je te tutoie, tu me vous vois.
Dans les interviews régulièrement, mais c'est pas grave. Restons comme ça, c'est très bien.
Okay, c'est parfait.
Et donc, on va passer un peu maintenant dans la dernière étape un peu de cette conversation. Vous êtes l'auteur des chansons que vous chantez, qui sont de tous les groupes que vous avez, auxquels vous avez participé. Ça, c'est l'écriture. On entre dans le champ de l'écriture. L'écriture, elle a commencé, avec les chansons, ou elle a commencé avant?
Bah, si on remonte vraiment au plaisir de l'écriture, moi c'est quand j'écrivais des rédacs à l'école primaire et que j'adorais ça. Je passais mon temps je faisais des copies doubles. Ça m'est même arrivé d'écrire, de finir des rédacs pour des copains. Enfin, déjà il y avait un goût pour l'écriture qui avait été repéré d'ailleurs par les profs. Et donc moi j'ai toujours adoré ça. Donc il y a quelque chose qui naît à ce moment-là, mais très vite la forme chanson me permettait d'écrire, je vais pas dire en me planquant, mais en tout cas en bénéficiant de l'habillage, entre autres musical, et de l'habillage vocal. C'est-à-dire que la chanson est un texte qui ne se suffit pas lui-même, en fait. Et c'est pour ça que Gainsbourg a eu ce fameux mot de dire que c'était un art mineur, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que... C'est un poème qui ne se suffit pas lui-même. Ouais. Moi, je dirais ça comme ça, une chanson. Et c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. Hein. Mais au bout d'un moment, j'ai eu des... J'adore continuer à écrire des chansons, ce qui est d'ailleurs assez difficile. Hein. Quand on dit que c'est un art mineur, c'est difficile d'écrire une chanson, de raconter une histoire ou de développer un sujet en 3 minutes. et d'avoir un refrain qui claque et qui synthétise l'esprit de la chanson et de trouver le bon mot qui va avec la bonne note au bon moment et que ça sonne. Il y a du fond, mais il y a aussi du son en chanson et je suis pas en train de faire l'article, mais je veux dire c'est en fait il y a quelque chose de très qui peut être assez complexe dans l'écriture de chansons, mais il y a un moment où moi j'ai eu envie de produire un écrit qui se suffise à lui-même. C'est très ambitieux. Et là, tu parlais tout à l'heure de quel est le livre, le roman qui est ouvert en ce moment. Bah, le roman qui est ouvert en ce moment, c'est le mien, celui que je suis en train d'écrire. Voilà. Et donc, cette fameuse écriture qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'on la lit, on peut lire à haute voix, mais en tout cas, on est tout seul avec son bouquin et on se fait soi-même la bande-son et les images qui nous viennent en lisant un livre. Ce qui est d'ailleurs la chose magnifique dans la littérature, hein, c'est que tout est contenu dans ces mots qui sont comme ça griffés sur le papier. Et donc je me lance là-dedans.
Quand je vous ai contacté, vous m'avez dit bah c'est je suis dans l'écriture d'un roman. J'entre, je vais en résidence. Enfin voilà, c'est un travail qui est en train de se faire. La chanson, l'écriture de chanson permettait pas tout. Et en tout cas, il y avait besoin de dire plus que ce que permet la chanson.
Je sais pas si c'est dire plus que la chanson, mais en fait c'est une chanson, c'est très resserré. Il y a une contrainte qui fait partie d'ailleurs de la beauté de la chanson, c'est que ça dure environ 3 minutes. Il y en a qui ont fait des chansons d'un quart d'heure, hein, mais en général une chanson c'est quand même 3 minutes, c'est un format assez standard. C'est comme ça, qui est standardisé d'ailleurs notamment par les canaux médiatiques que sont les radios et les plateformes. Mais en tout cas, voilà, une chanson, c'est aussi un côté populaire qui se retient vite et qu'on doit chanter, qu'on doit fredonner. Et du coup, c'est compliqué de déployer vraiment une plume. On est tributaire de la mélodie, de ce qui est chantable, de voilà, tout un tas de choses. Dans le roman, en tout cas dans un format plus long, même la nouvelle, là on n'a plus ces contraintes-là. Donc on peut vraiment déplier les phrases, on peut rester sur un sujet, on peut décrire ce qu'on veut pendant une page, deux pages si on veut. Il n'y a pas d'autre cadre qu'un cadre formel qu'on s'impose, en fait. Là, je vois ce taré d'Alan Moore, que j'adore, hein, qui est un scénariste de BD aussi extraordinaire. Il a écrit Jérusalem, qui doit faire 1300 pages, je crois. Alors ça fait partie des bouquins. Je me suis dit, je l'achète parce que j'aime bien Alan Moore, mais le lirai-je un jour? On verra. Mais voilà, ça, j'en suis pas sûr, mais il est là. Il est là aussi. Bref, en tout cas, le roman permet pour moi d'aller pas plus loin dans le propos, parce qu'il y a des chansons très profondes, hein, qui disent peu, enfin, en peu de mots, qui disent beaucoup.
C'est ce qui caractérise vos textes, c'est que ils disent beaucoup de choses. Toutes les chansons disent beaucoup de choses chez vous. Enfin, j'ai beaucoup de textes en tête comme ça, et effectivement, vous savez raconter une histoire en 3 minutes. Ça, c'est clair. Mais cette question de du roman, donc ce sur quoi vous travaillez, c'est une fiction.
Oui.
Ouais. Donc c'est aussi une nouvelle aventure, parce que vos textes de chansons, ils sont très imprégnés du réel, très imprégnés du monde dans lequel on vit. Là, vous partez, vous rompez les amarres. Là, vous...
Peut-être pas tant que ça, parce que en fait, c'est un roman qui est très... C'est romancé, c'est fictionnel au sens où ce sont des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie, mais ils existent, enfin, c'est-à-dire que j'invente les prénoms, j'invente les situations, ce qui leur arrive, mais ils sont d'une part inspirés de personnages que j'ai rencontrés, de situations que j'ai vécues, et ils sont très incarnés dans la vie réelle. Donc finalement, c'est pas si éloigné de... Alors, peut-être que dans les chansons de Rouquine, il y a un peu plus de moi, et encore, je dis je parce que je suis chanteur, je dis je, et Nino dit je aussi d'ailleurs, mais je veux dire parce qu'on est chanteur, on est les interprètes de ces textes-là. Malgré tout, on dit je sans que ces choses-là nous arrivent. Exemplairement mortel dont je parlais tout à l'heure, le type qui a un cancer et qui va mourir et qu'est-ce qu'il fait ces dernières 24 heures. Bon, ça ne m'est pas arrivé, je touche du bois que ça m'arrive pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu observer et là qui est raconté de façon hyperbolique et très resserrée en 24 heures et en 3 minutes la durée de la chanson.
Oui.
Mais finalement, je crois pas que ce soit si éloigné. Après, dans le style, parce que pour moi tout est là, hein, parce que tout a déjà été raconté depuis, on n'invente rien depuis les poètes grecs, hein, mais c'est la forme en fait, c'est le style. J'enfonce une porte ouverte, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est la langue qu'on invente ou en tout cas qu'on utilise pour raconter. Moi, c'est là-dessus que, par contre, je cherche, je fraye, je sors de ce que je fais dans Rookin, où je mélange une langue un peu crue avec ce que j'essaie de rendre comme étant une langue assez poétique en même temps, et de faire tenir en équilibre les mots là-dessus, sur ces deux pans-là. Je vais un peu ailleurs, là, quand même. Je suis beaucoup moins cru, je suis dans le concret, mais j'essaie d'avoir une langue un peu relevé. C'est pour ça que je suis encore à l'école à lire du Michon et des choses comme ça. Après, l'idée, c'est il y a un moment, faut quitter l'école et faut y aller, quoi. Mm-hmm. Parce que sinon, on n'a jamais fini de lire en quête d'une légitimité qui n'arrivera jamais tant qu'on stade pas à soi-même, quoi.
Mm-hmm. Est-ce que c'est jouissif, cette étape dans laquelle vous êtes d'écriture?
Oui. Oui, c'est très plaisant. Après, moi, je suis dans ce que j'appellerais la deuxième étape, au moins, qui est, je suis plus dans le fait de raconter cette trame, l'histoire, hein, comme on dit. Hein. Je suis justement dans la langue elle-même, dans le comment les mots s'agencent, sur quel rythme, avec quels mots se fabriquent les phrases. C'est pas ce qu'elle raconte, c'est comment elle le raconte. Et là, c'est à la fois très intéressant, en même temps assez fastidieux. C'est pour ça que là, j'ai besoin de m'extraire de mon quotidien pour être un peu avoir une vie un peu de moine et penser qu'à ça, parce que j'ai besoin d'être baigné dedans, dans ce bouquin, dans ce roman.
Est-ce que vous y avez peut-être déjà répondu à cette question, est-ce que vous aimeriez que vous retrouviez vous aussi votre livre dans cette bibliothèque?
Ah bah oui, ah bah un peu, oui. Je pense que c'est un peu le but de tout auteur et qui se respecte, c'est de dire je vais être édité et je serai dans cette bibliothèque là, oui, mais moi je veux surtout qu'elle soit dans la bibliothèque des autres. La mienne, je serais content, ça serait un peu mon petit trophée à moi, mais je tiens surtout à ce qu'il se trouve ailleurs. Mais d'ailleurs, en fait, moi je dois dire, là j'ai des CD que je peux, en général je les donne aux copains. Mais moi, je m'écoute très peu. Une fois que les chansons sont faites, elles m'intéressent plus. Si ce n'est pour les chanter en concert. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc. Je disais que j'étais pas très matérialiste tout à l'heure. Je me fous complètement de ce que j'ai fait. Une fois que c'est fait, ça m'intéresse vraiment plus du tout. Donc, je pense que ce roman, bon, c'est peut-être autre chose. Hein. Évidemment, j'aurai un exemplaire ici, comme j'ai des vinyles de Rookin et des CD. Mais je passe complètement à autre chose. Vraiment, l'objet m'intéresse plus.
Eh ben, Sébastien Rousselet, je vous remercie. Pour votre accueil, je vous remercie pour cette conversation.
Avec grand plaisir.
J'ai passé un très beau moment avec vous, à vous entendre parler avec autant d'enthousiasme. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, puis une fructueuse résidence.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Fin de cette belle et dense conversation. J'ai laissé Sébastien Rousselet dans sa maison en chantier. L'artisan présent a pu faire à nouveau tourner ses machines. Le ciel était toujours aussi gris. Il a retourné empiler son bois pour l'hiver prochain. Moi, j'ai repris la route vers Angers en traversant les vignes. Au cours de l'émission, vous avez entendu les titres choisis par mon invité. Il nous a donné le bonheur d'entendre Leonard Cohen et sa lancinante Strange Song. Et puis Al G qui a chanté Left and Free. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 17 juillet à 17h pour une nouvelle conversation. Cette fois, je serai dans la bibliothèque de Céline Cribier, agricultrice bio à Bouchemaine. Et sa bibliothèque, autant vous le dire tout de suite, est vraiment particulière. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.